Troisième partie, philosophie contemporaine. Analytique versus continentale. N'est-il pas curieux de parler de philosophie contemporaine pour une période qui couvre surtout les 19e et 20e siècles ? Le découpage habituel de l'histoire de la philosophie en périodes antique, médiévale, moderne et contemporaine se calque en fait sur celui des historiens français qui situent le commencement de l'époque contemporaine à 1789. Du point de vue de l'histoire politique, cela peut s'entendre en effet, même si cet usage n'est répandu qu'en France, mais il est plus difficile de le justifier du point de vue de l'histoire de la philosophie. Cela permet en tout cas de faire de Kant, qui publia ses trois critiques entre 1781 et 1790, l'équivalent philosophique de la Révolution française. Ce qui peut sembler excessif, mais n'aurait pas été désavoué par Kant lui-même qui, en toute humilité, comparait la critique de la raison pure à la révolution copernicienne en astronomie. Quoi qu'il en soit, pour cette dernière période, je m'arrêterai au début du XXe siècle avec Russell. Certains auraient peut-être préféré que je pousse mes pas un peu plus loin, mais ce serait s'aventurer dans une période qui demande un abord tout à fait différent en raison de la scission de plus en plus marquée entre deux grands styles philosophiques qui peinent à s'entendre. D'une part, la philosophie analytique valorise une approche argumentative rigoureuse, informée scientifiquement, recourant autant que possible aux outils de la logique formelle, détachée de l'histoire de la philosophie et de l'interprétation des auteurs classiques. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de philosophes analytiques spécialistes de Platon, Aristote ou Kant. Il y en a, et d'excellents, mais d'une part, ils mettront l'accent sur la reconstruction des arguments et leur formalisation, et d'autre part, cela n'aura pas prétention à être autre chose que de l'histoire de la philosophie, qui ne se confond pas avec la philosophie proprement dite, tout comme l'histoire des sciences ne se confond pas avec les sciences elles-mêmes. Un philosophe analytique spécialiste de philosophie de l'esprit connaîtra à peu près son Descartes, mais ne considérera pas que sa lecture et son interprétation soient un enjeu crucial pour progresser dans le débat sur la conception de l'esprit et des états mentaux. Ce sont les arguments qui importent, pas les auteurs. D'autre part, la philosophie continentale, ainsi nommée d'abord parce qu'elle dominait sur le continent européen, particulièrement en France et en Europe, mais cette expression renvoie maintenant à tout ce qui se présente comme de la philosophie sans être de la philosophie analytique. Si l'on tentait tout de même de caractériser ce second courant, ou plutôt cet ensemble de courants, il me semble que les traits suivants se dégageraient. Une approche plus littéraire et historique de la philosophie, attachée à la lecture interprétative des grands auteurs et des grands textes de la tradition philosophique, admettant des normes argumentatives plus relâchées, accordant moins de valeur à la formalisation rigoureuse des raisonnements et moins intéressé par l'apport des sciences sur les questions philosophiques. Cela peut aller jusqu'à une hostilité nette à l'égard de la logique formelle et de l'approche scientifique incapable de saisir l'ineffable singularité des êtres. Heidegger ou Derrida sont des cas assez caractéristiques de philosophes continentaux. Quant à la philosophie analytique, elle ne saurait être mieux incarnée que par la figure tutélaire du mathématicien, logicien et philosophe Bertrand Russell. La philosophie analytique est hégémonique dans les départements de philosophie d'un grand nombre de pays, et particulièrement des pays anglo-saxons. La philosophie continentale y est enseignée aussi, mais plutôt dans les départements de littérature. En France, en revanche, quoique la philosophie analytique gagne lentement du terrain dans certaines institutions, la philosophie continentale domine largement presque tous les départements universitaires et elle s'impose de façon plus significative encore dans la conception de l'enseignement des classes préparatoires et dans les attendus des jurys des concours auxquels elle prépare. Quant à l'enseignement au lycée, il dépendra largement des préférences du professeur qui s'en charge, toutefois presque tous sont passés par l'université ou les classes préparatoires françaises et donc la tendance est logiquement en faveur de la philosophie continentale. Je ne veux pas me lancer ici dans la querelle des analytiques et des continentaux, mais je signalerai, si cela n'était pas déjà clair, que, pour ma part, je me range plutôt du côté des premiers. Toutefois, tous les auteurs que j'ai présentés jusque-là sont intéressants du point de vue des deux traditions. C'est tout au plus le traitement que j'en ai fait qui pourrait révéler ma préférence. Mais à mesure que le XXe siècle se rapproche et que le fossé entre analytique et continental se dessine puis se creuse, il me sera de plus en plus difficile de rester consensuel. C'est le choix même des auteurs que je traite ou ne traite pas qui deviendra clivant. Voilà pourquoi, en fin de compte, je n'irai pas plus loin que Russell. Vous aurez peut-être aussi noté et reproché mon silence sur certains champs de la philosophie comme l'esthétique ou la philosophie politique, hormis un passage du chapitre sur Hobbes. Mais à moins de se contenter d'un survol passager, il est inévitable dans un livre de cette dimension de mettre ainsi de côté certains aspects de cet ensemble hétéroclite de champs de réflexion qu'on rassemble sous le nom de philosophie. Il fallait faire un choix et il se trouve que mon goût me porte davantage vers les questions d'épistémologie ou de morale. Il faut bien commencer et finir quelque part, de Platon critiquant l'écriture jusqu'à Russell louant la philosophie. Chapitre 16. Arthur Schopenhauer. Contre le libre arbitre. À chaque moment déterminé de ton existence, tu ne peux vouloir qu'une chose précise et une seule. Arthur Schopenhauer est un philosophe du XIXe siècle qui préférait les caniches aux hommes et bien plus encore aux femmes. Schopenhauer eut un caniche pour compagnon durant la plus grande partie de sa vie. Quand celui-ci mourait, son maître le remplaçait par un autre de la même race auquel il donnait le même nom, Atma, qui renvoie au concept de soi pur dans la philosophie hindouiste. À la mort de Schopenhauer, son caniche fut son principal légataire. J'ignore ce qu'il fit de cet héritage. Pour cerner le rapport de Schopenhauer à la gente féminine, il faut lire son Essai sur les femmes, 1851, un texte d'une incroyable misogynie. Il écrit « Il ne devrait y avoir au monde que des femmes d'intérieur appliquées au ménage et des jeunes filles aspirantes à le devenir et que l'on formerait non à l'arrogance, mais au travail et à la soumission. » À la même époque, le plus célèbre des utilitaristes, John Stuart Mill, écrivait « De l'assujettissement des femmes » qui promeut, en dépit de son époque, l'égalité des sexes et le droit de vote des femmes. Je dis ça, je dis rien. La réputation de misanthrope et de pessimiste de Schopenhauer n'est pas usurpée. Mais même en traitant de sujets désespérants, notre vie n'est qu'un pendule oscillant de la souffrance à l'ennui, il y a dans son écriture une sorte de joie désabusée, relevée aussi par le mauvais plaisir des innombrables piques lancées aux autres philosophes, surtout ses contemporains, qui n'avaient pas l'intelligence et le courage de penser comme lui. Tout cela me le rend finalement plutôt sympathique dans son antipathie, comme un Grinch de la philosophie. Du point de vue intellectuel, on peut regarder Schopenhauer comme un croisement entre Kant, Spinoza et, de façon plus inattendue, l'hindouisme, dont les textes théoriques les plus importants venaient d'être traduits en Europe. Je ne vais pas me risquer à discuter de cet aspect oriental, qui eut certes une grande influence sur Schopenhauer. En revanche, éclairer son rapport à Kant et à Spinoza sera important pour le point dont je voudrais discuter ensuite, à savoir la question du libre arbitre. Schopenhauer se considère comme le véritable héritier de Kant et souligne lui-même l'importance de la critique de la raison pure sur le développement de sa pensée, tout en étant en désaccord avec son maître sur de nombreux points cruciaux. Kant posait une distinction entre d'une part la chose en soi inconnaissable et d'autre part le phénomène, c'est-à-dire ce qui apparaît à notre sensibilité et est l'objet de notre connaissance. Il semble de prime abord que le rapport entre ces deux ordres de choses doit être le suivant. La chose en soi cause le phénomène. Il y a une réalité absolue, indépendante de tout esprit, et ce qui nous en apparaît est un effet de cette réalité en soi sur notre sensibilité. Or, un point crucial de la critique de la raison pure était de montrer que le principe de causalité relève des catégories a priori que notre entendement impose à l'ordre des phénomènes. En somme, nous ne pourrions voir le monde qu'à travers des sortes de lunettes causales. Le champ d'application du principe de causalité devrait donc être limité au phénomène. Donc, penser la relation entre la chose en soi et le phénomène comme une relation causale, si l'on s'en tient du point de vue kantien sur la causalité, cela revient justement à regarder la chose en soi comme un phénomène. Et c'est un problème. Ce point crucial a été formulé dès 1787 par Friedrich Heinrich Jacobi dans son essai sur David Hume et la croyance. Et Kant a toujours tenté de s'en défendre, niant que le rapport de la chose en soi au phénomène soit un rapport causal. Mais alors, quel est-il ? Cela restera obscur chez Kant et un grand nombre de ses lecteurs, même parmi les plus admiratifs de son œuvre, comme Schopenhauer, ne seront pas convaincus sur ce point. Schopenhauer reconnaissait la pertinence d'une telle critique. S'il retenait de Kant l'idée que le monde qui apparaît n'est qu'un ordre construit par notre entendement, Schopenhauer considérait qu'il fallait donner un sens tout à fait différent à la notion de « chose en soi ». Cela ne peut pas être une sorte de deuxième réalité qui se tiendrait derrière et causerait l'ordre des phénomènes. Pour Schopenhauer, il n'y aura plus qu'une seule réalité qui se présente à nous de deux façons différentes. L'une qui correspondra au monde des phénomènes, dans le même sens que Kant, et l'autre qui correspondra à la chose en soi, mais en un sens très différent. Et pour saisir ce que sont ces deux façons d'appréhender la réalité, un petit bout de celle-ci va jouer pour moi un rôle bien particulier, la chose que j'appelle mon corps. Dans l'ordre des phénomènes, mon corps est une chose soumise aux mêmes lois que n'importe quoi d'autre, et notamment soumise au même principe de causalité. Je pourrais l'étudier aussi bien qu'une horloge mécanique. Mon corps n'a rien d'objectivement spécial. Mais il me suffit de recevoir ou de donner un coup de poing pour me rendre compte que mon corps est bien subjectivement spécial. L'expérience de la douleur ou celle d'un mouvement volontaire me fait connaître ce petit bout de la réalité d'une façon beaucoup plus profonde et directe que toute autre chose. Pour Schopenhauer, souffrir, désirer, faire une action, ce sont là des manifestations de ce qu'il appelle, de façon générale, la volonté. Il peut sembler surprenant de lier l'expérience de la douleur à la volonté. La raison qu'il donne pour cela est que la douleur est une expérience qui nous affecte d'une façon contraire à la volonté. Schopenhauer écrit « À y regarder de près, on ne peut même prendre immédiatement conscience de son propre corps qu'en tant qu'il est l'organe de la volonté agissant vers le dehors et le siège de la sensibilité pour des impressions agréables ou douloureuses. Or, ces impressions elles-mêmes se ramènent à des affections immédiates de la volonté qui lui sont tantôt conformes et tantôt contraires. » Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre. Ce terme de volonté reçoit chez lui une extension particulièrement large qui l'amène à considérer en gros que toute l'expérience consciente, en dehors de la sensation brute, consiste en diverses affections de la volonté. Et cette expérience de la volonté serait, pour Schopenhauer, une appréhension immédiate de la réalité dans son essence la plus intime. C'est là qu'est la seule véritable chose en soi, mais en un sens très différent de Kant. La nature ultime de la réalité, que la compréhension objective des phénomènes ne permettrait pas de saisir, serait donc la volonté. De là, Schopenhauer verse souvent dans une sorte de mysticisme panpsychique que je vais préférer mettre de côté dans ce chapitre. L'ouvrage majeur de Schopenhauer, publié en 1819, s'intitule « Le monde comme volonté et comme représentation ». Le monde, selon Schopenhauer, peut en effet être appréhendé de deux façons différentes, d'une part comme représentation, c'est-à-dire comme l'ordre des phénomènes soumis au principe de causalité, d'autre part, de façon subjective, intime et plus profonde, comme volonté. Notez bien que Schopenhauer n'est pas dualiste. Le corps considéré comme un objet dans l'ordre des phénomènes et le corps dont je prends subjectivement conscience comme organe de ma volonté ne sont bien qu'une seule et même chose appréhendée de deux façons différentes. Cela rejoint un type de philosophie de l'esprit appelé aujourd'hui « théorie du double aspect » dont l'idée centrale est que la réalité est une mais présente deux faces, l'une physique et l'autre mentale. Chez Schopenhauer, ce serait plutôt une face objective, l'ordre des phénomènes, et une face subjective, la volonté. Ce genre d'approche résout élégamment la principale difficulté du dualisme classique à la Descartes, à savoir le problème de l'interaction entre l'esprit et le corps, ou ici le problème de l'interaction entre phénomène et chose en soi. Dans une théorie du double aspect, aucune interaction n'est nécessaire puisque la réalité n'est en fait constituée que d'une seule et unique chose. Il s'agit d'un monisme et non d'un dualisme. Une théorie est moniste si elle ne suppose qu'un seul type de substance ou de propriété. Le monisme le plus répandu est le physicalisme ou matérialisme qui suppose qu'il n'y a que des substances et des propriétés physiques. Un autre est l'idéalisme qui suppose au contraire que tout est mental ou spirituel. Les théories du double aspect semblent souvent tendre vers ce qu'on appelle un monisme neutre où l'unique substance existante n'est ni physique ni mentale. Ce pourrait être par exemple la position de Spinoza selon certaines interprétations. Quant à la théorie du double aspect de Schopenhauer, elle semble plutôt tendre vers l'idéalisme. L'aspect objectif, le monde comme représentation, c'est-à-dire l'ordre des phénomènes construits par l'entendement, est tout autant mental que l'aspect subjectif, le monde comme volonté. quand un changement survient dans cette unique chose, ces deux aspects à la fois s'en trouvent modifiés sans qu'on ait besoin de supposer d'interaction causale entre l'un et l'autre. Avant Schopenhauer, le plus important défenseur d'une théorie du double aspect était Spinoza. Souvenez-vous, lui aussi considère que toute la réalité n'est constituée que d'une seule substance incluant absolument tout et qu'il nomme Dieu ou nature, choisissez le terme qui vous convient. Cette substance unique n'est ni un corps ni un esprit, mais elle existerait à travers une infinité de modes, dont un mode corporel et un mode spirituel, qui sont les seuls que nous pouvons connaître en tant qu'être humain. Un autre point de rapprochement entre Spinoza et Schopenhauer, qui va m'intéresser tout particulièrement dans ce chapitre, est celui du déterminisme. Pour l'un comme pour l'autre, l'enchaînement des événements dans cette réalité unique est parfaitement nécessaire et déterminé de bout en bout. Tout ce qui se produit, étant donné ce qui précède, devait se produire ainsi et ne pouvait pas se produire autrement. Le comportement humain en particulier n'y fait pas exception. Pour reprendre l'élégante formule de Spinoza, il ne faut pas concevoir l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Et la liberté dans tout ça? Certains pourraient objecter que l'expérience de ma volonté, par laquelle j'agis sur mon corps, me donne justement l'intuition intime que cette action vient de moi, qu'elle est bien libre. Peu importe tous les raisonnements habiles des philosophes, cette intuition est la plus forte et cela suffit. La Société royale des sciences de Norvège proposa précisément cette question dans un concours académique adressé aux philosophes européens. Est-il possible de démontrer la liberté humaine à partir de la conscience de soi ? Schopenhauer y répondit par son brillant « Essai sur le libre arbitre » auquel les organisateurs du concours accordèrent le premier prix. Ce texte présente une analyse rigoureuse de la notion de liberté, et plus particulièrement de la liberté de la volonté, ou libre arbitre, et répond un grand et franc non à la question des Norvégiens. Rien dans l'expérience consciente de notre volonté ne peut justifier que celle-ci soit libre et non déterminée. Et parce que ce sujet est fascinant et que ce texte est l'un des plus intéressants et accessibles de Schopenhauer, je vous propose dans ce chapitre d'en parcourir quelques pages choisies. Schopenhauer commence par distinguer différentes conceptions de la liberté. La plus naturelle et intuitive est ce qu'il appelle « liberté physique » qui réside simplement dans le fait que notre volonté ne rencontre pas d'obstacles. Cela rejoint la définition toute simple et presque enfantine « Être libre, c'est faire ce qu'on veut. » Pour commencer mon cours sur la liberté en classe de terminale, j'incitais mes élèves à donner la première définition qui leur venait à l'esprit. L'idée qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, arrivait généralement parmi les premières réponses, mais très souvent avec réticence, comme s'il leur semblait qu'une telle définition devait être trop simpliste et enfantine pour avoir droit de citer dans un cours de philosophie digne de ce nom. Pour la rendre plus respectable, certains ajoutaient la clause suivante. Être libre, c'est faire ce qu'on veut sans empiéter sur la liberté des autres. Quand je demandais de justifier cette limitation, beaucoup m'expliquaient qu'il est bien connu que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, comme s'il s'agissait là d'un fait et non d'un précepte moral. De fait, si je veux empiéter sur la liberté des autres et que j'en sois empêché, cela limite bien ma propre liberté. Cette réponse toute simple qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, n'est pas aussi superficielle qu'il y paraît. Après tout, un corollaire presque immédiat de cette conception est l'idée stoïcienne par excellence que, pour être libre, il suffit de vouloir tout ce que l'on fait. Mais nous ne sommes peut-être pas libres de vouloir exactement ce qu'on voudrait vouloir. C'est tout le problème. Si je veux regarder l'épisode suivant de ma série préférée et que rien ne m'en empêche, ma connexion Internet fonctionne et j'ai encore juste assez de force pour garder les yeux ouverts, alors mon action est bien libre puisqu'elle est conforme à ce que je veux. Et pourtant, pouvais-je ne pas regarder cet épisode ? Je l'aurais pu si je l'avais voulu, mais je ne l'ai pas voulu, de fait. Pas plus qu'à la fin des 99 épisodes précédents. J'ai certes assez de force pour faire ce que je veux, rester allongé dans mon canapé en enchaînant les épisodes d'une série addictive, mais ma volonté elle-même semble bien faible. Je sens qu'à cet instant, je n'aurais pas la force de vouloir autre chose, et c'est bien là le problème. Même libre de faire ce que je veux, suis-je pour autant libre de ce que je veux ? Schopenhauer écrit « La notion de liberté qu'on avait conçue jusqu'alors qu'au point de vue de la puissance d'agir se trouvait maintenant envisagée au point de vue de la puissance de vouloir et un nouveau problème se présenter. Le vouloir lui-même est-il libre ? La définition populaire de la liberté physique peut-elle embrasser en même temps cette seconde face de la question ? C'est ce qu'un examen attentif ne nous permet point d'admettre. Car d'après cette première définition, le mot « libre » signifie simplement « conforme à la volonté ». Dès lors, demander si la volonté elle-même est libre, c'est demander si la volonté est conforme à la volonté, ce qui va de soi, mais ne résout rien. Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre. Ainsi, la difficile question sera celle de la liberté de la volonté qui ne se confond pas avec la liberté physique. Cette dernière résidait seulement dans la capacité à faire ceci plutôt que cela, étant admis que l'on veut ceci plutôt que cela. Mais le véritable problème du libre arbitre se pose antérieurement au niveau de notre capacité à vouloir ceci plutôt que cela. Il est malheureusement très courant de confondre ces deux niveaux de liberté, l'une comme puissance d'agir, l'autre comme puissance de vouloir. Or, en l'absence d'une telle distinction, nier le libre arbitre semble parfaitement absurde. Schopenhauer met en scène d'une façon particulièrement vive cette résistance du sens commun à comprendre le problème. Il écrit « Interrogez un homme tout à fait sans préjugés. Voici à peu près en quels termes il s'exprimera au sujet de cette conscience immédiate que l'on prend si souvent pour garante d'un prétendu libre arbitre. Je peux faire ce que je veux. Si je veux aller à gauche, je vais à gauche. Si je veux aller à droite, je vais à droite. Cela dépend uniquement de mon bon vouloir. Je suis donc libre. » C'est le sentiment intime qui est à la racine de ce témoignage qui seul fait considérer à l'homme naïf, c'est-à-dire sans éducation philosophique, ce qui n'empêche pas qu'un tel homme puisse être un grand savant dans d'autres branches, que le libre arbitre est un fait d'une certitude immédiate. En conséquence, il le proclame comme une vérité indubitable et ne peut même pas se figurer que les philosophes soient sérieux quand ils le mettent en doute. Au fond du cœur, il estime que toutes les discussions qu'on a engagées à ce sujet ne sont qu'un simple exercice d'escrime auquel se livre gratuitement la dialectique de l'école, en somme une véritable plaisanterie. Aussi est-il malaisé de faire concevoir à l'homme qui ne connaît point la philosophie la vraie portée de notre problème et de l'amener à comprendre clairement que la question ne roule pas sur les conséquences, mais sur les raisons et les causes de ses volitions. Je précise qu'une volition est un acte de vouloir particulier, c'est en fait à peu près synonyme de volonté dans son sens courant, typiquement lorsqu'on parle de dernière volonté. Il faudrait plutôt dire dernière volition. Expliquez cela à votre notaire quand vous rédigerez votre testament. Certes, poursuit Schopenhauer, il est hors de doute que ces actes dépendent uniquement de ces volitions. Mais ce que l'on cherche maintenant à savoir, c'est de quoi dépendent ces volitions elles-mêmes, ou si peut-être elles seraient tout à fait indépendantes. Il est vrai qu'il peut faire une chose quand il la veut, et qu'il en ferait tout aussi bien une telle autre s'il la voulait à son tour. Mais qu'il réfléchisse et qu'il songe s'il est réellement capable de vouloir l'une aussi bien que l'autre. Il est encore vraisemblable que notre homme, à bout d'arguments, essayera toujours encore d'échapper à la perplexité qu'entraîne cette question lorsqu'elle est vraiment bien comprise, en se réfugiant à l'abri de cette même conscience immédiate et en se répétant à satiété « Je peux faire ce que je veux et ce que je veux, je le veux ». C'est un expédient auquel il recourra sans cesse, de sorte qu'il sera difficile de l'amener à envisager tranquillement la véritable question qu'il s'efforce toujours d'esquiver. Et qu'on ne lui en veuille point pour cela, car elle est vraiment souverainement embarrassante. Mais si l'on réussit enfin à fixer solidement sa pensée sur cette question si sérieuse et à lui faire clairement comprendre que ce que l'on cherche ici, c'est l'origine même de ses volitions, la règle, s'il en est une, ou l'absolue irrégularité qui préside à leur formation, alors on découvrira en toute évidence que la conscience immédiate ne fournit aucun renseignement à ce sujet. Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre. À ce stade, Schopenhauer a déjà répondu à la question posée par la Société royale des sciences de Norvège. Non, le témoignage de la conscience ne peut pas démontrer notre libre arbitre, puisqu'il nous révèle seulement la présence de telle ou telle volonté en nous et ne nous éclaire pas sur l'origine de ces volontés. Certes, nos actions sont conformes à nos volitions, il n'est donc pas erroné de s'écrier « je fais ce que je veux », mais cela n'indique qu'une liberté en un sens très restreint, ce que Schopenhauer appelait la liberté physique, et non le libre arbitre à proprement parler, c'est-à-dire la liberté de la volonté elle-même. Ayant établi que la conscience intime de notre volonté ne peut rien nous apprendre à ce sujet, Schopenhauer se tourne ensuite vers l'autre aspect de la réalité. Que se passe-t-il si l'on envisage non plus le monde comme volonté, mais le monde comme représentation, c'est-à-dire le monde objectif soumis au règne de la causalité? Considéré de ce point de vue, chaque volition particulière semble bien causalement déterminée par certaines circonstances antérieures, elles-mêmes déterminées par des circonstances antérieures, etc., même si nous ne savons pas précisément lesquelles ni de quelle façon. Il est courant aujourd'hui d'objecter qu'à l'échelle des particules fondamentales, la physique quantique ne nous dépeint plus une réalité déterministe. Mais puisque nous nous intéressons à la liberté humaine, il suffit de se demander si un organisme vivant, particulièrement au niveau de son système nerveux, est sujet à cet indéterminisme quantique. Or, il est consensuel de considérer que ce n'est pas le cas. Les mécanismes biologiques, comme par exemple ceux qui ont lieu dans les neurones, se produisent à une échelle qui n'est pas quantique, et le comportement macroscopique de l'organisme obéit donc, selon toute vraisemblance, à des lois déterministes. Le physicien Roger Penrose, grand défenseur d'un fondement quantique de la conscience, a fait ce qu'il pouvait pour argumenter en sens contraire depuis des décennies et n'a convaincu presque personne. Mais le point le plus important est encore le suivant. Même en admettant une indétermination dans le fonctionnement macroscopique du cerveau, on pourrait en fait l'introduire artificiellement. Imaginez une puce implantée dans le cerveau, utilisant des propriétés quantiques pour générer des nombres aléatoires en fonction desquels tel ou tel groupe de neurones serait activé, produisant telle ou telle volition. En quoi l'indétermination du comportement qui en résulterait rendrait-elle libre l'organisme muni d'un tel dispositif? Une volition aléatoire ne nous semble pas plus libre qu'une volition déterminée. En fait, à bien l'examiner, le libre arbitre ne semble compatible ni avec le déterminisme, ni avec l'indéterminisme. Le mécanisme causal, dans le cas d'une boule de billard qui en frappe une autre, est moins complexe que celui d'un être humain mis face à un choix, mais il n'est pas fondamentalement différent. Il n'y a jamais que des objets soumis à des lois causales. La seule différence, c'est que la boule de billard n'a pas la fatuité de se croire libre. Schopenhauer écrit : un homme qui, se trouvant par exemple à la rue, se dirait « Il est à présent 6 heures du soir, ma journée de travail est finie, je peux maintenant faire une promenade, ou bien je peux aller au club, je peux aussi monter sur la tour pour voir le coucher de soleil, je peux aussi aller au théâtre, je peux faire une visite à tel ami ou à tel autre, je peux même m'échapper par la porte de la ville, m'élancer au milieu du vaste univers et ne jamais revenir. Tout cela ne dépend que de moi. J'ai la pleine liberté d'agir à ma guise, et cependant, je n'en ferai rien, mais je vais rentrer non moins volontairement au logis auprès de ma femme. » C'est exactement comme si l'eau disait « Je peux m'élever bruyamment en haute vague, oui certes lorsque la mer est agitée par une tempête, je peux descendre d'un cours précipité en emportant tout sur mon passage, oui dans le lit d'un torrent, je peux tomber en écumant et en bouillonnant, oui dans une cascade, je peux m'élever dans l'air, libre comme un rayon, oui, dans une fontaine. Je peux enfin m'évaporer et disparaître, oui, à 100 degrés de chaleur. Et cependant, je ne fais rien de tout cela, mais je reste de mon plein gré, tranquille et limpide, dans le miroir du lac. » Comme l'eau ne peut se transformer ainsi que lorsque des causes déterminantes l'amènent à l'un ou l'autre de ses états, de même, l'homme ne peut faire ce qu'il se persuade être en son pouvoir que lorsque des motifs particuliers l'y déterminent. Jusqu'à ce que les causes interviennent, tout acte lui est impossible. Mais une fois qu'elles agissent sur lui, il doit, aussi bien que l'eau, agir comme l'exigent les circonstances correspondant à chaque cas. Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre. Dans une veine similaire, Spinoza avait imaginé une pierre qui roulerait à la suite d'une impulsion et qui, se trouvant soudain douée de conscience et persuadée de faire effort pour continuer à rouler, serait par là même persuadée que c'est librement qu'elle roule. Après tout, cette pierre est bien libre de faire ce qu'elle veut, puisque tout ce qu'elle veut, c'est rouler, et de fait, elle roule. Spinoza concluait superbement : telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Spinoza, Lettre à Schuller, 1674. En somme, chaque fois que j'imagine avoir pu faire autre chose que ce que j'ai fait en certaines circonstances, je dois songer qu'il aurait fallu pour cela que je veuille autre chose que ce que j'ai voulu. Or, ce que j'ai voulu en ces circonstances a été déterminé précisément par ces circonstances, et il aurait fallu d'autres circonstances pour me déterminer à vouloir autre chose. Comme le résume parfaitement Schopenhauer, « Tu peux, il est vrai, faire ce que tu veux, mais à chaque moment déterminé de ton existence, tu ne peux vouloir qu'une chose précise et une seule, à l'exclusion de tout autre. » Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre. Le vertige face à l'étendue de tout ce qu'il nous semble que nous puissions faire à un moment donné ne vient que de notre incapacité à comprendre la façon dont les circonstances en ce moment précis déterminent notre volonté. Schopenhauer souligne ainsi l'absurdité ou l'hypocrisie de ce vertige. Il écrit « Telle est encore l'erreur de beaucoup de gens qui, tenant à la main un pistolet chargé, s'imaginent qu'il est en leur pouvoir de se tuer en le déchargeant. Pour l'accomplissement d'un acte semblable, le moyen mécanique d'exécution est ce qu'il y a de moins important. La condition capitale est l'intervention d'un motif d'une force écrasante et par là même fort rare, possédant la puissance énorme qui est nécessaire pour contrebalancer en nous l'amour de la vie, ou plus exactement la crainte de la mort. Ce n'est qu'après qu'un pareil motif est entré en jeu que l'on peut se décider vraiment, et alors il le faut. Je peux faire ce que je veux, je peux, si je veux, donner aux pauvres tout ce que je possède et devenir pauvre moi-même, si je veux, mais il n'est pas en mon pouvoir de le vouloir, parce que les motifs opposés ont sur moi beaucoup trop d'empire. Par contre, si j'avais un autre caractère, et si je poussais l'abnégation jusqu'à la sainteté, alors je pourrais vouloir une chose pareille. Mais alors aussi, je ne pourrais pas m'empêcher de la faire, et je la ferais nécessairement. » Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre. Certains pourraient vouloir démontrer leur liberté par un acte fou et imprévisible, mais le caractère imprévisible, vis-à-vis de soi-même ou de tout autre, n'est en rien une preuve de l'indétermination. Les systèmes chaotiques comme le double pendule, un pendule rigide accroché à un autre pendule rigide, en donnent la meilleure illustration. Ce sont des systèmes dynamiques déterministes extrêmement sensibles aux conditions initiales et dont l'évolution devient donc rapidement imprévisible. S'il est impossible de prévoir même approximativement la position d'un objet aussi simple qu'un double pendule juste quelques secondes après l'avoir lâché, il n'y a guère lieu de se vanter d'être soi-même imprévisible. L'acte fou et imprévisible que vous voudriez faire pour démontrer votre liberté aura bien été déterminé par les circonstances spéciales dans lesquelles vous vous trouviez, c'est-à-dire en réaction à la lecture de ce chapitre un peu trop déterministe à votre goût. N'allez donc pas vous tirer maintenant une balle dans la tête pour prouver au monde que Schopenhauer avait tort, cela restera un mauvais argument. Et vous serez mort. Quelques livres pour aller plus loin. Arthur Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre, édition de Guy F. et David Buffo sur le site schopenhauer.fr, 2013. Ce texte est un moyen d'entrer en douceur dans la philosophie de Schopenhauer. Le propos est clair et solidement argumenté, même s'il donne par moments l'impression de tourner en rond, car les raisonnements centraux sont d'une simplicité confondante et ne sont difficiles à accepter que parce que la conclusion nous répugne. Schopenhauer semble ainsi taper inlassablement sur le même clou en espérant qu'il finisse par s'enfoncer dans la tête du lecteur. Son pessimisme quant à la nature humaine transparaît dans les quelques passages sur l'innéité des caractères humains et l'impossibilité d'en changer, qui semblerait justifier à demi-mot d'enfermer préventivement les personnes pour leur méchanceté native. Notez aussi que dans la dernière partie du texte, Schopenhauer aborde la dimension morale et défend d'une façon intéressante l'intuition de la responsabilité de nos actes en dépit du caractère déterminé de notre volonté. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, Gallimard, 2 volumes, 2009. Cette édition de poche de l'œuvre monumentale de Schopenhauer consiste tout de même en deux pavés de plus de 1000 pages chacun. De quoi se donner une indigestion de Schopenhauer. Mais cela se lit bien mieux que la critique de la raison pure. Et si vous cherchez des passages croustillants, je ne saurais trop vous conseiller le chapitre 44 des suppléments, intitulé « Métaphysique de l'amour », dont il existe d'ailleurs beaucoup d'éditions à part si vous voulez vous épargner le millier d'autres pages, où Schopenhauer examine froidement en quoi consiste ce sentiment que les poètes célèbrent stupidement. Même sous sa forme la plus éthérée, la passion amoureuse ne s'ancre jamais ailleurs que dans l'instinct sexuel et n'est en fin de compte qu'une ruse de l'espèce pour pousser les individus à la perpétuer. Arthur Schopenhauer, L'art de l'insulte, texte choisi par Franco Volpi, point, collection point essai 2015. Anthologie de l'insulte chez Schopenhauer, qui ne saurait être exhaustive tant ce misanthrope semblait haïr tout et tous et ne se lassait jamais de l'écrire. À côté de ses haines connues contre les femmes, voir la première note de ce chapitre, ou contre divers philosophes, surtout Hegel, certaines de ses haines visent des objets parfaitement dérisoires. Par exemple, la barbe. Ainsi il écrit, « On voudrait faire passer la barbe pour un ornement. Ornement que, depuis 200 ans, on était accoutumé à trouver que chez les juifs, les cosaques, les capucins, les prisonniers et les voleurs de grand chemin. La férocité et l'air atroce que la barbe imprime à la physionomie proviennent de ce qu'une masse plutôt sans vie occupe la moitié du visage, et la moitié exprimant le côté moral. » En un mot, toute pilosité est bestiale, tandis que sa suppression est le signe d'une civilisation supérieure. De la part des plus belles rouflaquettes de l'histoire de la philosophie, c'est assez cocasse.